Bernard Brisé, bonjour.
Bonjour.
Alors quand et pourquoi avez-vous découvert Pékin ?
Écoutez, j'ai découvert Pékin en 1979. Je faisais partie du premier voyage organisé touristique, je dis bien touristique parce que c'était pas un voyage officiel ou semi-officiel où les gens étaient invités. Moi j'étais un pur touriste, c'était organisé par les Amis de l'Orient qui était l'agence de voyage du musée Guimet. Et donc, il y avait une trentaine de personnes en ce mois d'août 1979. Et je dois dire que ce voyage d'un mois m'a bouleversé et a laissé à la fois dans mon cœur et dans mon esprit des traces indélébiles, si bien que j'ai continué, si vous voulez, à aimer la Chine de mon cœur et dans mon esprit.
Et quel sentiment la Chine a évoqué en vous, a éveillé en vous plutôt à cette époque?
Et je suis historien de formation et historien d'art. Et j'étais fasciné tout de suite par la civilisation chinoise, qui, comme vous le savez, est la plus vieille civilisation au monde, 4000 ans. Paul Valéry disait, vous savez, nous savons maintenant que les civilisations sont mortelles. Eh bien, la civilisation chinoise n'est pas mortelle. Babylone a disparu, l'Égypte a disparu, Rome a disparu, la Grèce a disparu, la Chine est toujours là. Donc, si vous voulez, il y a une fascination de l'historien devant une civilisation qui continue, avec quasiment la même langue, les mêmes traditions, Confucius tout de même à 2500 ans, hein, et même chose pour Lao Tse. Donc il y a une culture, une civilisation, et quand on est en Chine, on a besoin d'arriver avec, je dirais, un background, si vous voulez, un arrière-fond de culture chinoise pour comprendre ce pays.
Vous n'arriviez pas sans bagage ?
Dans ce pays, lors de ce premier voyage, nous étions une trentaine et j'avais bien préparé, je pensais, mon voyage en lisant les livres d'Alain Perfit, de Jules Roy, les gens qui avaient écrit sur la Chine, etc. Donc je me pensais que j'étais correctement armé. Et en fait, je me suis trouvé avec des gens qui étaient venus du musée Guimet, du musée du Louvre, des savants, et je me suis aperçu qu'ils en savaient 10 fois plus que moi. Et du coup, je me suis retrouvé tout humble, tout misérable, si vous voulez, en me disant que j'avais encore beaucoup de progrès à faire avant de connaître et de comprendre la Chine.
Alors, puisque nous parlons de Pékin, est-ce que vous pouvez situer géographiquement la ville de Pékin ?
Alors, Pékin est un paradoxe, parce que la Chine, comme vous le savez, est un immense pays, et Pékin est tout au nord de la Chine. Les capitales, en général, souvent, sont au centre, même si Paris n'est pas tout à fait au centre de la France. Enfin, il y a une conjonction, Paris, la Seine, Paris a toujours existé, Paris a des bilans, que ce soit une capitale, c'est pas très surprenant. Bon. Mais Pékin est atypique en ce sens qu'elle est au nord de la Chine, établie dans une plaine où il n'y avait rien. Pas de cours d'eau, quasiment. Et pourquoi ? Pékin a été construit surtout pour répondre aux invasions du nord, pour être proche de la frontière, pour mieux défendre les frontières de la Chine. La Grande Muraille, vous voyez, la Grande Muraille est à 60 km de Pékin. Donc nous sommes vraiment au nord. Et ce que les Chinois craignaient avant tout, c'était donc l'envahisseur du nord, c'est-à-dire les Mongols et ensuite les Mandchous. Enfin, et ils avaient raison d'avoir peur. C'est comme si, vous voulez, la capitale de la France avait été installée à Lille pour défendre donc la France des invasions nordiques.
Ça aurait été en toute logique. Alors donc, Pékin est une ville militaire au départ.
À l'origine, c'est une ville militaire. Enfin, il ne faut pas oublier que la première description de Pékin que nous avons, c'est Marco Polo. Alors là, je vous invite à relire Marco Polo, c'est absolument extraordinaire. Et à l'époque, ça s'appelait Kambaluk, et c'était une ville marchande. C'était une ville, c'était quasiment le terminus de la route de la soie. Plus tard, ce sera à Xi'an. Et il raconte qu'il y avait d'immenses caravansérails pour accueillir toutes les caravanes donc de marchands. Mais à l'origine, effectivement, Pékin est une ville de garnison.
Justement, puisqu'on aborde Marco Polo, est-ce qu'il y est vraiment allé à Pékin ? Il y a tout un tas de bruits qui courent. Par exemple, on sait que Guillaume de Rubruck y est allé, personne ne met en doute son voyage, mais Marco Polo, c'est pas la même chose.
Je vois que vous êtes au courant d'une polémique. Alors, il y a quelques années, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a une historienne anglaise, de Londres, oui, qui a écrit un livre en disant qu'elle mettait en doute la véracité donc, du récit de Marco Polo et sa découverte de la Chine, où il aurait vécu pendant 17 ans, en disant tout de même, c'est étonnant, Marco Polo, il ne parle pas une seconde de la Grande Muraille. Oh, il aurait dû la voir quand même. Bon. Il ne parle pas du thé. C'est tout de même étonnant qu'il ne parle pas du thé. Il ne parle pas des petits pieds des Chinoises. C'est tout de même étonnant, ça aurait dû le frapper, et ainsi de suite. Et en fait, les gens qui se sont penchés sur la question ont dit qu'il ne parle pas de la Grande Muraille. C'est tout à fait normal. À l'époque, il n'y avait plus de danger de Grande Muraille parce que les occupants, justement, c'était les Yuan qui étaient des Mongols. Donc, il n'y avait pas de frontière, si vous voulez. Ils étaient chez eux, ils n'avaient pas besoin de se protéger. Et si ça se trouve, ils l'ont traversé. C'était un simple talus, il n'a pas fait attention. Bon. Le thé, pour lui, c'était tellement évident qu'il n'en a pas parlé. Ça s'explique. Quant aux petits pieds des Chinoises, là aussi, il n'a pas fait attention. Enfin, les historiens actuels réfutent très facilement, si vous voulez, les manques de Marco Polo. Alors, effectivement, alors, c'est un peu incohérent. On ne sait pas trop. Il a fait des périples en Chine. On s'y perd un peu dans les différentes villes, ses différents voyages. Mais moi, je n'ai pas étudié très précisément la question. Mais j'en ai parlé avec mon ami Jean-Paul Desroches, qui est conservateur du musée Guimet, et qui connaît parfaitement la Chine, qui a écrit, qui a fait des expositions sur Marco Polo, qui a écrit un catalogue d'expositions, qui a bien étudié la question, et pour lui, ça fait pas aucun doute, Marco Polo est bien allé en Chine. Cela dit, c'est un fantasme, si vous voulez, de dire, enfin c'est amusant de dire qu'il n'est pas allé en Chine. Enfin, si vous voulez, à 99%, il est allé en Chine.
C'est peut-être dû aussi au titre, le Livre des Merveilles, ça fait peut-être rêve. Qu'autre chose.
Ben, le Livre des Merveilles, il faut savoir que c'est le livre qui s'est le plus vendu, qui a été le plus lu au monde après la Bible. Bon, il n'y avait pas une famille noble ou aisée qui, parce que nous sommes à la fin du Moyen-Âge, hein, Marco Polo, c'est pas encore la Renaissance, qui n'ait pas eu son exemplaire du Livre des Merveilles, autre nom, c'est le Devisement du Monde, et ça a continué jusqu'à présent, ça a continué d'émerveiller, mais ça a émerveillé en même temps, parce que Marco Polo décrit des palais avec des toits d'or absolument extraordinaires. Alors on a bien conscience à travers Marco Polo de l'immensité du pays, mais également de la richesse inouïe du pays et de la civilisation également. Et donc ça fait rêver. Et beaucoup de gens ont rêvé de Marco Polo en disant qu'il doit y avoir des richesses là-bas si les toits des temples sont en or. Vous vous rendez compte, si on est là-bas, on pourra en rapporter un morceau. Donc, et le Devisement du Monde, là encore, je vous invite vraiment à relire. Il y a d'excellentes, je dirais pas traductions. Il est écrit en français, c'était la langue de l'époque, vous savez, le Devisement du Monde, c'est écrit en français, mais enfin, français de la fin du Moyen-Âge. Ensuite, ça a été traduit en latin, en italien, tout ce qu'on veut. Mais enfin, il y a eu des traductions du français d'époque, maintenant, qui sont tout à fait lisibles. D'ailleurs, vous en retrouverez une partie dans mon livre.
Oui, tout à fait. Alors, quelles sont les dynasties importantes pour Pékin, pour éviter de s'y perdre ?
Alors, Pékin n'est pas une ville ancienne. Pékin n'est pas une capitale ancienne. Les capitales anciennes de la Chine, c'est Xi'an, là où on a découvert les fameux guerriers que vous allez accueillir à Lille, je crois, ou je ne sais pas quoi, un petit peu. Il y a d'autres capitales en Chine. Nankin a été une capitale... Mais Pékin est une capitale. Pékin a 800 ans, maxi, si vous voulez. Et c'était donc. C'est le premier empereur. Donc, alors, le premier Pékin qui s'appelait Kambalu, qui a donc été fondé par le petit-fils de Genghis Khan, qui s'appelait Kubilai Khan. Et il est d'usage, de tradition en Chine, lorsqu'il y a un changement de dynastie, on déserte la capitale du prédécesseur parce que ça portait malheur puisqu'il a mal fini, et on la rase ou on en refait une à côté. Et la capitale de Kublai Khan, elle existait un petit peu au nord de Pékin actuel. Donc, c'était construit en briques, donc si vous voulez, un matériau périssable. Il ne reste rien en bois, il ne reste rien quasiment. Et donc, Pékin a été reconstruit un petit peu à côté par un empereur Ming, dont la capitale était à Nankin. Et je vous disais qu'il a créé Pékin justement pour se rapprocher de la frontière dangereuse, pleine de périls, avec les invasions donc des Mongols, des Mandchous, des archers, des cavaliers venus du nord qui étaient redoutables et que les Chinois ne savaient pas combattre.
Alors lui, son origine, c'était Yongle.
Yongle.
Et son origine, il venait d'où, lui ?
Ah bah lui, donc, en fait, la dynastie des Ming, les deux grandes dynasties, les deux dernières grandes dynasties, c'est les Ming et les Qing. Bon. Et les Ming sont des dynasties une dynastie qui a succédé, donc, dynastie étrangère, donc c'est une dynastie chinoise. Donc, et pas Yuan, comme venu de Mongolie. Panique, il fallait se protéger et protéger ses frontières. Donc Yongle, qui était le troisième empereur donc, de la dynastie, a jugé utile, voire indispensable, d'établir sa capitale au nord, à Pékin, tout près de la Grande Muraille. Et pour ça, il a engagé, ça a mis 20 ans pour construire cette capitale. Il a transformé des centaines de milliers de paysans en ouvriers. Il a fait venir le marbre, les pierres d'un peu partout, et le bois également, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et donc, il en a fait cette capitale. Alors, il faut savoir que Pékin, c'est la cité interdite. C'est la résidence de l'empereur, le fils du ciel. C'est l'incarnation, si vous voulez, du ciel sur la terre, la cité interdite. Et encore une fois, j'incite tout le monde à aller à Pékin, parce que la cité interdite est sans doute le monument le plus extraordinaire au monde. On parle des pyramides d'Égypte, de l'Égypte ou du Mexique, mais je vous assure, quand vous avez vu la cité interdite, plus rien n'existe. C'est fabuleux. Moi, j'ai tendance à aller à Pékin dès que je peux, ne serait-ce qu'aller voir visiter la cité interdite, même à 7h, 8h du matin, avant que les troupeaux de touristes ne l'envahissent.
De touristes chinois, d'ailleurs.
Et vous avez tout à fait raison. La première fois que j'ai vu la cité interdite, c'était en 79. On était les seuls visiteurs étaient étrangers. Les Chinois ne pouvaient pas y accéder. Et maintenant, les Chinois viennent en groupe avec haut-parleurs. Ça fait un bruit impossible. Le recueillement est difficile. Donc, si vous allez à Pékin, vous allez voir la cité interdite, et tôt le matin.
Très bien, comme ça on verra les pratiquants de tai chi en même temps. Alors, comment s'est construite cette capitale chinoise une fois que Yongle a pris le pouvoir, d'ailleurs avec un coup d'état pas très net.
Il a liquidé toute sa famille, quoi, en gros. Mais enfin, ça, c'est un peu courant. Il avait des oncles, il les a un peu trucidés, quoi. Et il a trucidé justement celui qui s'était révolté contre lui, qui venait de Pékin, qui était donc le grand-duc de Pékin, le prince de Pékin, qui était un oncle à lui, et donc il s'est établi ensuite sur cette terre. Et Yongle était un très grand empereur. Il est un peu oublié dans l'histoire, fondateur de Pékin, parce que on se souvient de lui comme d'un homme cruel qui a liquidé tout le monde, parce qu'il faut dire que tous les amis, les féaux, les courtisans de ses oncles ont été égorgés. Je raconte ça dans mon livre. Donc il a vraiment une très mauvaise image, si vous voulez, de tyran sanguinaire. Cela dit, c'était bâtisseur de Pékin, ce qui n'est pas rien, et également c'était un grand empereur pour organiser l'Empire. Alors, il y a le pour et le contre, mais c'était un très grand empereur, Yongle.
Alors, le plan de Pékin ne doit rien au hasard.
Alors, tout en Chine est feng shui. C'est-à-dire que c'est de la géomancie. Ça ne doit rien au hasard, vous avez tout à fait raison. Parce que des espèces de superstitions, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, j'aurais tendance à pas y croire, mais si vous voulez, on est envahi par le charme. Donc, il faut se protéger, notamment des mauvais esprits qui viennent du nord, comme les cavaliers, vous voyez. Et donc, tout se passe face au sud. L'entrée de la cité interdite est au sud. L'empereur, dès qu'il siégeait, tournait le dos au nord, donc regardait le sud, et pourrait, bien sûr, on mettait un grand écran derrière lui pour le protéger des mauvais esprits. Alors, la cité interdite, elle-même, est protégée par la colline du charbon, qui est une colline artificielle qui a été construite, justement, à l'époque de la cité interdite, en creusant les lacs et toute la terre, si vous voulez, tous les sédiments qu'on a enlevés pour creuser les lacs, on a appelé ça, on en a fait la colline du charbon, qui n'a été nullement, comme on l'a dit, la légende, c'était du pur charbon pour une réserve de charbon pour les mois d'hiver, c'est pas du tout ça. Et donc, vous voyez, tout est fait en géomancie. Et ça, c'est passionnant parce que la cité interdite, en même temps, c'est le yin et le yang, donc le yin féminin, le yang masculin. Tout est en Chine, tout tourne autour du yin et yang, l'eau, le feu, l'air, tout ce qu'on veut. Donc il y a géomachie, yin et yang, et en même temps, la cité interdite, c'est le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Pour les Chinois, le ciel est rond et la terre est carrée. Et ils n'imaginent pas qu'il y ait d'autres empires sur Terre. Eux, c'est le centre du monde, c'est l'empire du milieu, par définition. Et l'empereur est le fils du ciel, c'est l'homme du milieu, et c'est le souverain de tous les autres peuples au monde, qui ne sont par définition que des vassaux et des barbares.
Alors, on parle depuis tout à l'heure de cité interdite, mais cette cité, elle était interdite à qui ?
Alors, la cité interdite, pourquoi ? C'est que dans la journée, la cité interdite donc, est habitée par l'empereur, et ses courtisans, ses ministres qui viennent lui rendre visite, mais c'est le harem, ce lieu des concubines. Et les concubines, il pouvait y en avoir des centaines, plus les servantes des concubines, ça fait beaucoup de femmes. Et il fallait que, je ne sais pas si cette influence, c'est une question qui n'a pas été creusée, qui vient d'Orient, de Constantinople, vous voyez, d'Istanbul, où il y avait le calife, le pacha, avec des concubines et des eunuques.
C'est peut-être la route de la soie qui
a... C'est impossible. Alors là, s'il y a des gens qui écoutent votre émission et qui pouvaient m'en dire plus, parce que c'est une question qui m'intrigue, et personne n'ose s'aventurer à dire ça vient de Constantinople, de Byzance, enfin. Mais effectivement, c'est peut-être arrivé par la route de la soie, donc des eunuques. Alors, les eunuques, il y en avait plusieurs milliers, qui étaient donc chargés, puisqu'on les considérait comme inoffensifs sur le plan sexuel, de veiller sur les femmes. Car il ne faut pas l'oublier, la Chine est une civilisation très morale. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. On parle des chinoises légères ou je ne sais pas quoi, c'est pas du tout ça. Il y a d'un côté les femmes respectables et de l'autre côté les courtisanes ou les prostituées ou je ne sais pas quoi, mais c'est deux mondes tout à fait différents. Et la Chine est un pays très puritain. Je ne dirais pas ça du Japon par exemple ou d'autres pays comme le Cambodge, le Vietnam ou la Thaïlande. Enfin, ça, c'est encore autre chose.
Alors, cela dit, votre ouvrage comporte pas mal d'histoires de nuques.
Alors, oui, ça, c'est une histoire amusante que je peux vous raconter. Le directeur de la collection s'appelait Vladimir Fedorovski, et c'est un spécialiste de la Russie et de l'URSS. Je ne sais pas trop s'il connaît bien la Chine. Et donc, lorsque on m'a demandé de faire ce livre sur Pékin, j'aurais dit, voulez-vous que je vous fasse un synopsis, c'est-à-dire un bref résumé de ce que je vais faire, ce que je compte faire de ce livre. Il me dit, m'en fous. Eunuque et concubine. Alors, le grand historien que je suis, pardonnez-moi, je ne suis qu'un petit historien, un fait gloup, quoi, mais pour qui me prend celui-là, eunuque et concubine, puis quoi encore. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis bien amusé. Merci, monsieur Fedorovski, parce que ça donne un livre beaucoup plus facile à lire. Je devrais peut-être pas le dire, mais enfin, beaucoup plus grand public et sans doute beaucoup plus distrayant qu'une somme historienne où je parlerai donc de la querelle des rites, trop souvent des jésuites et de choses sérieuses, si vous voulez. Donc, c'est un livre qui mélange allègrement des épisodes historiques et des épisodes plus divertissants où il est question des eunuques et des concubines. Et croyez-moi, il y a quoi dire.
Cela dit, des jésuites, vous en parlez, puisque vous parlez de Matteo Ricci.
Alors, J'aime bien parler de Matteo Ricci. Les jésuites en Chine ont eu une influence considérable. Et j'aurais pu en parler, tout mon livre aurait pu tourner autour des jésuites, tellement c'est passionnant. Et également des ambassades, mais on y reviendra plus tard. Et les jésuites, je voudrais parler de Matteo Ricci, à qui je consacre un chapitre, mais j'ai parlé également, c'est un chapitre que j'aime bien, sur le frère Attiret, qui est un jésuite, qui était un peintre, un artiste, qui a écrit une lettre absolument extraordinaire décrivant le Yuan Minyuan dont nous parlions, là, qui était détruit en 1860, le palais d'été. Et un autre également, qui avait un autre jésuite qui a vécu à Pékin, qui s'appelle tout simplement le Père Thiers de Chardin. Mais j'aurais pu parler également de tous les jésuites qui étaient à la cour de Qianlong et de Kangxi, son grand-père, à la fin donc, du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, jusqu'à la suppression de l'ordre des jésuites. Et ces jésuites étaient astronomes, c'était des savants, mathématiciens, artistes, etc. Alors Matteo Ricci, dont je suis content que vous me posiez la question, Matteo Ricci est un Italien jésuite, et il a tout de suite compris, envoyé en Chine, bien c'est pourquoi, pour évangéliser la Chine. Bon. Il s'est dit, évangéliser les masses chinoises, le seul moyen éventuellement d'y parvenir, c'est essayer de convertir l'empereur. Vaste besogne. Bon. Il arrive à Canton et il commence à prêcher un petit peu autour. Ça ne se passe pas tellement bien, il est expulsé. Il y comprend une chose, c'est qu'avec cette vieille civilisation absolument extraordinaire, il ne faut pas arriver en conquérant, en disant « je suis porteur de la vérité ». De Dieu, vous n'êtes que des infâmes ignorants, vous savez rien, alors que moi je suis possesseur de la vérité, je sais tout. Il faut arriver humblement. Et en plus de ça, il faut se fondre un peu dans la société, et même totalement dans la société. C'est-à-dire posséder la langue, être meilleur, parler un meilleur chinois que les Chinois, connaître mieux Confucius que le plus lettré des Chinois, et là autre chose, et ainsi de suite. Bref, être un super chinois, et en même temps, comment impressionner les Chinois? Par ça, par voilà un barbare, parce que par définition, tous les étrangers sont des barbares pour les Chinois, dans la mesure où ils appartiennent à des civilisations, même pas qui méritent même pas le nom des civilisations, mais des peuplables incultes. Donc, il faut être plus chinois que les Chinois, et en même temps, comment les impressionner? Donc, par la langue, en parlant bien, et surtout en leur expliquant les progrès, la science de l'Occident. Alors, vous savez que les Chinois, on dit, ont inventé la poudre, l'artifice, les camions, le canon, ils ont inventé l'imprimerie, ils ont inventé la boussole, également le gouvernail, etc. Mais tout de même, Ricci arrivait en Chine en disant, « Ah, vous savez, sur le plan d'astronomie, vous ne savez pas tout. » Bon, ensuite, sur le plan de l'astronomie, alors les Chinois qui regardaient le ciel, les étoiles, etc., ont été subjugués. Il leur a dessiné des cartes du monde, ce qui les a beaucoup étonnés. Et surtout, il a découvert que les Chinois étaient passionnés par les horloges. Il est arrivé qu'une horloge était tous là. Vous songez à une machine bizarre, extrêmement compliquée, là, qui égrène le temps sans se tromper. C'est absolument extraordinaire. Tout le monde voulait son horloge. Et l'empereur, il a installé, donc, il finit par arriver à Pékin, sous un empereur, Wang Yi, qui était un obèse, qu'il n'a jamais rencontré d'ailleurs, parce que le protocole s'y opposait. Mais du moment où Ricci lui a installé une horloge à la cité interdite, il l'a contemplé et il avait besoin de lui parce que Ricci était le seul capable de l'entretenir, de la remonter, de quand elle était en panne, se détraquer, de la réparer, etc. Et à partir de là, donc Ricci a réussi à notamment à convertir le premier ministre. Des pays, le docteur Su, le premier ministre de l'empereur, qui est devenu vraiment un catholique. Et le Su, son fief, c'était près de Shanghai, Zikawei, et c'est là où plus tard les jésuites vont s'installer, enfin il va créer, se réinstaller pour fonder le célèbre, entre guillemets, jésuitière, si vous voulez, la célèbre université, la célèbre église de Zikawei, qui se trouve à quelques kilomètres de Shanghai. Et donc, Ritchie, moi, là, c'est un chapitre encore que je vous invite à lire, à découvrir Ritchie, parce qu'il y a beaucoup de livres sur lui. Mais on parle souvent de Michel-Ange, des génies de la Renaissance, de Léonard de Vinci. Bien, je pique de la Mirandole, qui savait tout, vous savez. Bon, eh bien, Ritchie, moi, je le mets, franchement, sur le plan du génie, sur le même plan que Léonard de Vinci et Michel-Ange, même si c'était différent. Alors, Ritchie a écrit, je vous invite vraiment à découvrir le père Ritchie.
Donc, on peut lire ses écrits aujourd'hui ?
Alors, il a écrit quelques livres, notamment un livre séduisant de l'amitié, et il avait un compagnon qui a réuni, qui a écrit en latin son enseignement, son périple, son histoire. Ça s'appelle l'expédition chrétienne en Chine, et c'est en latin, mais c'est retraduit en français. Et c'est passionnant, mais si vous, c'est un peu quand même. Il y a des tas de livres sur Ritchie. Je les cite en annexe dans ma bibliographie. Vous pouvez en lire un, voire deux, voire trois. C'est un sujet inépuisable.
Alors donc, dans les drames qui ont marqué les rapports entre la Chine et l'Occident, il y a le sac du Palais d'été, les deux guerres de l'opium et la guerre des boxeurs. Est-ce qu'on pourrait évoquer rapidement ces trois événements importants ?
Écoutez, oui. Pour les Chinois, tout étranger est un barbare, un culte, et donc méprisable. Et ils sont mis à détester les étrangers. Enfin, il faut dire que d'abord, le peuple chinois, même encore maintenant, de nos jours, je le constate tous les jours, est assez xénophobe. Dans la mesure où il y a un complexe de supériorité, nous sommes ils se considèrent un peu comme le peuple élu, si vous voulez. Au centre de la Terre, la civilisation vieille de 4000 ans. Bien. Et on leur apprend ça dès l'école. Ils sont pétris, si vous voulez, de la supériorité de la Chine. Bon. Or, voilà qu'au XVIIIe siècle, la Chine était encore un grand empire, puissant et respecté, sous le règne des empereurs mandchous, Kangxi, Yongzhen, Qianlong. Et ensuite, par la faute des empereurs, plus ou moins dégénérés, la Chine est devenue un empire décadent. Bon, alors quand il y a un pays faible, ça attire les forts. Hein. Bien. Et les Anglais, ils achetaient en Chine du thé, des soieries et diverses babioles, de la porcelaine, etc. Donc, ils achetaient en Chine. Donc, ils achetaient en monnaie d'argent. Et la Chine avait besoin de rien. Alors les Anglais essayaient de leur filer les laines de Manchester. Ils n'en avaient pas besoin. La Chine n'avait besoin de rien. Et à la fin du XVIIIe siècle, ils ont envoyé en 1793 une grande ambassade en Chine pour essayer de convaincre l'empereur de nouer des relations commerciales. Hein. Donc c'est le fameux livre de Perfit qui s'appelle « L'Empire immobile hein. ». Et donc, l'empereur Qianlong, vous êtes bien gentil, vous avez des tas de cadeaux, vous m'avez apporté, je vous en suis très reconnaissant, mais enfin cela dit, je vous le dis tout de suite, nous n'avons pas besoin de vous, au revoir et merci. Bien. Et cette ambassade n'a pas eu de conséquences. Et les Anglais, peuple, ont eu l'idée diabolique, d'exporter en Chine l'opium qu'ils produisaient aux Indes, dans le golfe du Bengale, histoire de séduire, si vous voulez, les Chinois par leur péché mignon, c'est-à-dire l'opium, la drogue. Alors, tout ça parce que leur balance commerciale était déficitaire, parce qu'ils achetaient, je le disais, donc des porcelaines, de la soie et du thé. Alors, ils ont inondé la Chine. Alors, d'une manière illégale, évidemment, par contrebande. Et la Chine, évidemment, s'est révoltée parce que, vous voyez, leur argent repartir et leur peuple s'anémier, etc. En 1840, à Canton, il y a un mandarin vertueux, mandaté par l'empereur, qui se saisit des caisses d'opium, 20 000 caisses d'opium, et qui les détruit. Bon. Casus belli, l'Angleterre, comment, pas possible, le prétexte était trop beau, donc la première guerre de l'opium. Alors l'Angleterre envoie une armée là-bas, qui ne fait qu'une bouchée des pauvres militaires chinois, et un traité est signé à Nankin, qui ouvre des ports au commerce occidental, dont Shanghai, et en même temps ils se font céder Hong Kong, vous voyez, donc ça part de là. Bon, ça c'est la première guerre de l'opium, donc victoire des Anglais. Ensuite, il y a eu une autre guerre de l'opium, parce que la Chine disait le traité qu'on a signé, vous savez, c'était sous c'était de force, ça ne vaut rien, c'est un chiffon de papier, on ne l'applique pas, aucune conséquence. Donc les Anglais n'étaient pas contents, et ils ont organisé une deuxième guerre de l'opium. Alors là, c'est amusant, parce que ils voulaient des alliés. Des Français, c'était l'époque de Napoléon III de la reine Victoria. Les deux peuples étaient alliés, ils s'entendaient bien, ils s'étaient déjà battus en Crimée, ça s'était bien passé.
Donc on est dans les années.
Nous sommes en 1860. Et on monte une expédition commune. Une expédition donc anglo-française. Je t'en viens, je lis souvent partout l'expédition franco-anglaise. Non, laissons aux Anglais la primauté de cette expédition où ils étaient plus nombreux, 12 000 contre 8 000 soldats, et le leadership était anglais avec Lord Elgin, bien, qui était un ambassadeur, qui était le chef de l'expédition. Et donc, cette expédition, elle débarque dans les Anglais s'organisent à Hong Kong en faisant venir des troupes de l'Inde. Les Français envoient donc des troupes de l'Orient, de Brest, de Toulon, etc. Et ils se retrouvent à Shanghai. Et de là, les deux armées ont convergé vers le nord de la Chine, vers le golfe du Chili. Ils ont débarqué dans le nord de la Chine et ils ont gagné en bousculant donc les armées mandchoues, les cavaliers. Ils sont arrivés à Pékin. Et qu'est-ce qui se passe à Pékin ? Il y avait une ambassade, enfin, il y avait une délégation avec couverte par le drapeau blanc, c'est-à-dire des gens qui sont considérés comme des ambassades, on n'a pas le droit d'y toucher selon les lois de la guerre. Or, ils sont faits prisonniers par les Chinois et vraiment torturés pour beaucoup qui vont laisser leur mort. Bon. Alors, je continue ma petite histoire. Les Français et les Anglais se donnent rendez-vous. On leur dit, ils sont à quelques kilomètres de Pékin, après avoir emporté pour les Français la bataille de Palikao, et on leur dit que le gros des troupes chinoises se sont rassemblées autour du palais d'été, qu'on appelle en chinois le palais de l'harmonie de l'Arcartier, c'était le Yuan Minyuan, et qui est à quelques kilomètres au nord-ouest de Pékin. Donc les deux armées françaises, les deux corps d'armée, deux corps expéditionnaires se disent on se donne rendez-vous là-bas, et puis ils partent chacun de leur côté. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est marrant, les Anglais se perdent en route. Bon, et les Français arrivent tout seuls devant le Yuan Minyuan, qui n'est pas défendu par personne, contrairement à ce qu'ils croyaient, sinon quelques eunuques, etc. Et la tentation est trop forte. Et ils pénètrent dans le palais d'été, ils commencent à le piller. Les Anglais qui arrivent le lendemain, parce qu'ils étaient perdus, sont furieux, furieux. Non pas que les Français aient pillé, mais parce qu'ils ont commencé à le faire sans eux. Quoi. Bien. Là-dessus, ensuite, on organise le pillage. Et les Anglais, pour se venger donc des otages qui avaient été pris, alors qu'ils étaient censés être couverts par le drapeau blanc, pris, torturés ou tués dans d'affreuses souffrances, décide donc, après l'avoir bien pillé, et mieux systématiquement, beaucoup mieux que les Français, décide de l'incendier. Alors, cette perte du palais d'été, cette destruction du palais d'été en 1860, du Yuan Minyuan, tout Chinois normalement constitué depuis l'âge de 10 ans est au courant. Ça leur restait au travers de la gorge. Alors, Lord Elgin, en donnant cet ordre, les Français n'ont pas participé à l'incendie. Là, ils ont été bien. Lord Elgin disait « Je punis l'empereur ». Mais le peuple chinois considère qu'il a puni le peuple chinois et la Chine.
Mais dites-moi, Lord Elgin, que vous citez depuis tout à l'heure, c'est le même que celui qui a piqué les marbres du Parthénon?
Bonne question, c'est son fils. Bon sang ne saurait mentir. Son père était donc ambassadeur à Athènes, c'était sous l'occupation turque, et il a acheté donc les marbres du Parthénon, il les a achetés.
Pas bien cher.
Hein. Pas bien cher, mais assez frais quand même. Hein. Et il a voulu les revendre ensuite, et il n'a pas réussi. Et il s'est endetté à mort pour payer donc plus le transport, les achats, etc. Si bien que la famille de Lord Elgin, même quand il était en Chine, était encore ruinée, alors que c'était une riche famille écossaise, ce sont des Écossais. Et la famille n'épongera ses dettes que dans les années 1870, vous voyez.
Alors, si on parlait un petit peu de la guerre des boxeurs, qui est un moment extrêmement important dans l'histoire de Pékin.
Alors, la guerre des boxeurs, tout le monde en a entendu parler sans trop savoir de quoi il s'agit. Nous sommes en 1900. Je parlais tout à l'heure de la xénophobie des Chinois. Et les Chinois ont été humiliés par les puissances coloniales, au premier rang l'Angleterre, la France, mais également l'Allemagne et le Japon bientôt. Et donc, avoir des étrangers sur leur terre, ça ne leur plaisait pas. Il faut savoir qu'à Shanghai, par exemple, il y avait ce qu'on appelait les concessions. C'était donc un territoire chinois, mais la juridiction était étrangère, française ou anglaise ou américaine. C'est-à-dire qu'avec des tribunaux, si vous voulez, les Chinois n'avaient rien à voir. Donc, c'était difficile à admettre pour des Chinois un peu nationalistes, normalement nationalistes, dirais-je. Bon. Et les boxeurs, c'est une insurrection populaire qui est née dans le nord de la Chine à la fin donc du 19e siècle et qui était très xénophobe, très anti-étrangère, s'en prenant notamment aux missionnaires qui pourtant faisaient des choses admirables et aux étrangers. Et donc ils ont commencé par massacrer pas mal de monde, des chrétiens, y compris d'ailleurs des chrétiens chinois, hein, parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens chinois. Et ils sont arrivés à Pékin, qu'ils ont investi, soutenus en sous-main par la fameuse impératrice Cixi, qui elle aussi était très xénophobe.
Elle était même machiavélique.
Tout à fait. Et ne pouvait pas supporter les étrangers. Donc, c'est terminé par le siège des délégations. Alors, nous sommes en 1900. L'Europe est en pleine exposition universelle, mais malgré tout, de Paris. Mais les nouvelles de Chine provenaient difficilement, mais tout le monde était pendu, voulait savoir, parce que c'était les légations étrangères, c'était un quartier diplomatique qui était assiégé donc par les boxeurs, qui étaient donc des gens qui... tout le monde a vu le film, peut-être avec Charlton Heston... qu'il faut voir, c'est un excellent film d'ailleurs, même si bien sûr c'est romancé.
Alors le film Les 55 jours de Pékin.
Les boxeurs, ils se prétendaient invulnérables. Alors évidemment, on les appelait les boxeurs parce qu'ils faisaient des mouvements de gymnastique, etc. Enfin, de boxe, etc. Ils se croyaient invulnérables. Hein, invulnérables. Donc, ils ont dû déchanter assez vite. Mais toujours est-il qu'ils étaient que quelques milliers à assiéger les légations qui étaient défendues par quelques dizaines de braves soldats. Là, dans mon livre, donc le roman de Pékin, il y a un grand chapitre là-dessus. Et c'était une défense héroïque. Alors là, vraiment, il y a eu des héros, des gens qui sont morts, des Français, des Anglais. Les Français sont très, très bien battus. Et vraiment, des gens absolument extraordinaires, sans compter également... Les Français, le Bétang, où c'était un lieutenant, un sous-lieutenant Henri, là, qui s'est battu, qui en est mort, et avec des évêques, l'évêque de Pékin qui était là, bref, c'est à la gloire de la France, de ses militaires et de ses religieux, dirais-je. Et donc, ça s'est terminé au bout d'un certain temps. Après donc les 55 jours de Pékin, ça a été un petit peu avant, mais enfin c'est le cœur des combats, ça a duré 55 jours, et elles ont été délivrées par une expédition internationale composée de 8 nations, dont bien sûr les Anglais, les Français, les Japonais, les Autrichiens, etc. Et alors, autant en 1860, malgré le sac du Palais d'été, Pékin n'a pas été touché en 1860. Hein, il n'y a que le seul Palais d'été. C'était, dirais-je, de l'opérette, quasiment Offenbach. C'était pas très sérieux, malgré tout. Autant 1900, alors là, il faut se reporter au livre de Pierre Loti, les derniers jours de Pékin. C'est sanglant, c'est sordide, c'est triste. Pékin a été ravagé. Et alors, il y a un maréchal général allemand qui est arrivé là parce que l'ambassadeur d'Allemagne avait été tué au début de l'insurrection des Boxers. Il a voulu se venger, mais il est arrivé après la bataille. Tout était fini, mais il ne voulait pas être venu pour rien. Alors il a massacré comme ça, à tort et à travers, une centaine de milliers de Chinois. Donc c'est sordide, cette histoire, qui n'a pas été bien écrite encore. 1900, la révolte des boxeurs matée. Alors l'impératrice Cixi avait fui, elle s'était retirée à Xi'an, et elle aurait dû abdiquer 1000 fois, mais les étrangers, donc, qui étaient maîtres du pays, on dit qu'il valait mieux elle encore que n'importe quoi. On ne savait pas trop que c'était plus prudent de la conserver comme impératrice, et elle est morte 8 ans plus tard. Voilà pour 1900. Alors là, c'est un épisode sanglant, triste, que tous les Chinois également se remémorent, mais nous également, si vous voulez.
Il est important qu'on ne l'oublie pas et qu'on le connaisse. Teilhard de Chardin, dont on a parlé tout à l'heure, Ségalène ou Pierre Loti ne sont pas allés en Chine pour la même raison.
Alors, Pierre Loti, c'était un marin. Donc, il accompagnait le chef de l'escadre, commandant des forces françaises en Chine, comme officier de liaison. Et il était à la fois donc marin, et il se considérait comme romancier, mais journaliste également. Vous voyez, donc il voulait être présent, comme c'était un peu un reporter de guerre, quoi. Bien. Alors lui, il était, dirais-je, en service commandé. Vous me parlez de Ségalène. Alors Ségalène est assez extraordinaire, là, je vous invite. Alors l'œuvre de Ségalène, qui est très à la mode en ce moment, on en parle beaucoup depuis quelques années, c'est pas facile, hein, ne vous leurrez pas, la poésie, c'est pas facile. Mais il faut lire son livre quand même, René Leys, sur Pékin. Donc c'est un livre fabuleux. Alors lui, Ségalène était un médecin de marine. Il a demandé, était envoyé en Chine comme médecin, mais il a fait des expéditions archéologiques, il a vécu en Chine, et donc il a écrit son chef-d'œuvre, donc c'est René Leys. Hein. Ensuite, vous pourrez. Il y a 2 livres dans la Pléiade, donc perfectionner votre, enrichir votre savoir. Alors, Ségalène, c'est assez extraordinaire. Teilhard de Chardin, que vous évoquez, Teilhard de Chardin, le célèbre père jésuite, est allé en Chine parce qu'il avait des théories qui ne plaisaient pas à son ordre, ni au Vatican, des théories scientifiques. On lui a conseillé de s'éloigner, de quitter son enseignement à l'Institut catholique de Paris, où il risquait de pervertir les esprits. Donc, il est allé en Chine. Et il a été bloqué à Pékin pendant la guerre. Donc, sinon, il serait revenu, je ne sais pas quoi. Il était paléontologue, donc il a fait des grandes études de paléontologie, des recherches scientifiques. Mais il était bloqué à Pékin pendant la guerre, donc il a eu le temps. Et là, encore, je vous invite à redécouvrir le père Teilhard de Chardin. Et également, c'est qu'a écrit, par exemple, Claude Rivière, qui était, comme vous, une reporter radio qui était Radio Shanghai, qui a écrit un livre très émouvant sur sa correspondance avec Pierre de Chardin.
On parlait bien sûr de la Grande Guerre de 14. Je précise. Lao She est-il l'écrivain qui nous fait le mieux pénétrer le vieux Pékin, aujourd'hui disparu ?
Écoutez, oui. Alors, le vieux Pékin est très à la mode pour se lamenter en disant qu'il disparut, et c'est vrai. J'ai visité Pékin la première fois, je vous le disais, en 1979, et Pékin était intact, quasiment. Je vous disais qu'en 1900, il avait été beaucoup brûlé, beaucoup de palais, des ravages considérables, mais ensuite rien, pas grand-chose. Il faut savoir que lorsque Chiang Kai-shek a fondé sa république, là, il a mis sa capitale à Nankin en 1927. C'est-à-dire que Pékin avait perdu son rang de capitale, c'était une ville de province, enfin, c'est, disons une capitale de province. En 1949, Mao Tse-tung lui a rendu sa dignité. Et donc, on a refait à nouveau la capitale de la Chine, donc ce qu'elle est restée. Et Pékin, que j'ai connu en 79, c'était, disons, n'avait pas beaucoup bougé par rapport au Pékin reconstruit de 1910 après la guerre des Boxers. Et depuis, alors là, tout a changé. Je sais pas, les hutongs, ce sont des ruelles. Et qui donne sur des habitations. Alors, des habitations immenses, vastes, en carré autour d'une cour, et qui communiquent. Et c'était le charme du vieux Pékin. Mais en même temps, je me suis risqué parfois dans des hutongs, j'étais presque révulsé, dans la mesure où la pauvreté ambiante. Bon, on ignore la salle de bain. On ignore les toilettes. La cuisine se fait au milieu de la cour, vous voyez. Et alors, à l'origine, c'était destiné, ces grandes cours, à abriter toute une famille, au sens large du terme, élargi. Ils avaient entassé, depuis notamment Mao Tse-tung, mais sans doute bien avant, des dizaines et des dizaines de familles. Là où une famille devait vivre dans les années 1930, là, c'était des dizaines et des dizaines de familles dans une pièce, vous voyez, assises dans 10 mètres carrés, quoi. Enfin, bien. Donc, sans eau courante, etc. Alors, que fallait-il faire ? Restaurer ça ? Impossible. Alors, il fallait. Le terrain est cher, donc les Chinois ont décidé de les raser. Mais encore une fois, que pouvait-on faire d'autre ? Ce que je reprochais. Ce que je reprocherais aux autorités chinoises, aux maires de Pékin, aux architectes, c'est de ne pas avoir reconstruit d'une manière élégante et bien, mais d'avoir fait un peu n'importe quoi comme urbanisme, quoi. C'est bâclé, c'est cheap, si vous voulez. Et c'est ça qui est dommage. Alors, évidemment, quand on retourne à Pékin, on a la nostalgie. Cela dit, il y a des choses extraordinaires. Il y a toujours la cité interdite, hein. Il y a le temple du ciel, il y a la grande muraille qui n'est pas loin, il y a le temple de Confucius qu'il faut visiter, tout près du temple de Lama qu'il faut également visiter. Et alors là, il y a ce monument controversé qui est l'opéra de Pékin, qui est construit par un Français. Alors là, moi j'adore. Et il y a eu des polémiques en disant c'est moche, c'est laid, surtout ça n'a pas sa place à Pékin, dans mesure où ça n'a rien de chinois ou d'oriental. Mais quand même, moi j'ai été bluffé, j'ai été très impressionné par cet opéra de Pékin construit par M. Andreu, donc architecte français.
Oui, d'autant plus qu'à Pékin aujourd'hui, c'est plutôt une vitrine de l'architecture internationale qu'autre chose. Et donc, on a toute notre place.
Mais moins que Shanghai encore.
Mais ça commence.
Mais Pékin est en train de revenir une ville culturelle aussi sur le plan de l'art. Et alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens, notamment Simon Leys, qui a repris donc comme pseudonyme le titre du roman de Ségalène. Alors, Simon Leys, qui était un Belge, qui s'appelle Pierre Hixman de son prénom, est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, j'aurais aimé le voir élu à l'Académie française, mais enfin, ce n'est pas simple. En plus, qu'il n'habite pas Paris, il habite à Canberra, en Australie ou ailleurs. Et il a écrit des pages très sévères sur Mao Tse-tung. Parce que vous m'avez posé une question tout à l'heure sur la géomanchie, sur la géographie même de Pékin, un axe nord-sud. Bien. Et Mao Tse-tung, pour casser ça, si vous voulez, cet héritage de l'Empire, a décidé que l'axe serait est-ouest. Donc il a construit, il a fait tracer cette immense avenue Yongnan qui fait, je ne sais pas, 150 mètres de large, là, qui passe juste en face de la cité interdite et qui fait 40 km de long, hein, n'en finit pas. Bien. Et donc il a cassé ça. Il a d'autre part, comme toutes les villes chinoises, Pékin était entouré de murailles, immenses murailles, immenses, faisaient 7 mètres de large, ou même 12 mètres de large à la base, 7 mètres en hauteur, avec des portes monumentales. Il a tout fait raser. Alors là encore, c'est comme si y a des gens qui se plaignent. Mais si Paris était entouré encore de la muraille de Philippe Auguste, que dirait-on? Et Lille aussi était une ville de muraille, si elle subsistait, hein, j'aurais bien les commerçants, etc., et les automobilistes qui disaient quand même, ça nous embête un peu, si on faisait un grand boulevard périphérique autour, ce serait tout de même mieux pour la circulation, pour le commerce et pour les usagers.